La Révolution d'octobre 1917. Des leçons toujours d'actualité. Un siècle après l'insurrection victorieuse d'octobre 1917 et plus de 25 ans après la disparition de l'URSS en tant qu'État, le spectre du communisme hante toujours leurs adversaires. Mais son centenaire rappelle également à quel point nombre de ceux qui s'en prétendent encore les héritiers se sont éloignés des idées qui l'avaient portées. Pour les militants communistes révolutionnaires, la compréhension de ces événements demeure indispensable et même vitale. Née des entrailles de la barbarie impérialiste, la révolution russe donna naissance au premier État ouvrier et seul à ce jour. Le formidable capital d'expérience dont elle reste porteuse doit toujours orienter notre combat pour renverser la domination de la bourgeoisie. Quand historiens et journalistes tirent à boulet blanc sur la Révolution. La fièvre anticommuniste actuelle n'atteint certes pas les poussées les plus délirantes du passé. Il faut dire que, de la peur de la « contagion bolcheviste » entre guillemets, et de l'homme au couteau entre les dents entre guillemets, des années 1920 à l'hystérie de la guerre froide, la barre avait été placée assez haut par tout ce que le pays compte d'intellectuels réactionnaires. Se voulant parfois plus subtil, plus « scientifique », entre guillemets, l'offensive des adversaires de la première révolution communiste victorieuse de l'histoire n'en reste pas moins active. Il y a 20 ans, cette prétention d'historien et d'intellectuel à faire le procès de tous les régimes et à travers eux de toutes les révolutions se réclamant d'une façon ou d'une autre du marxisme, avait trouvé une forme de consécration dans le Livre noir du communisme, 1997. Les thèses tirées de cette compilation de contre-vérités historiques, accumulant les mensonges délibérés les plus énormes et les inventions d'anticommunistes hystériques, continue d'agrémenter les articles consacrés ces derniers mois à la Révolution russe. Ainsi, Stéphane Courtois, le principal inspirateur de ce livre, transforme-t-il Lénine en, citation, « l'inventeur du totalitarisme, le créateur du parti-État monopolisant pouvoir politique, économique, culturel, promoteur de massacres de masse, destiné à imposer le règne de l'homme nouveau, entre guillemets, fin de citation, et pour faire bon poids, citation, l'instigateur de l'un des systèmes politiques les plus meurtriers de l'histoire, fin de citation. Dans Les Misérables, Victor Hugo faisait dire à un de ses personnages, citation, laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes, fin de citation. Il n'a visiblement pas été entendu. Un bêtisier pourrait être consacré à ces élucubrations, la palme revenant peut-être au rédacteur du Figaro présentant les militants de la France insoumise comme, citation, « les arrière-petits-enfants de Léon Trotsky, ayant hérité de lui et de Lénine le refus de la démocratie libérale ainsi que la haine du capitalisme et de son économie de marché. » Fin de citation. J.C. Buisson, directeur du Figaro Magazine, renchérit le 22 septembre dernier à propos de l'appel à manifester de Mélenchon. Citation, via les soviets de soldats, d'ouvriers et de paysans, les responsables bolcheviques harcèlent le gouvernement et encadrent les mécontentements sociaux. On est alors un peu dans la France de l'été 2017. Fin de citation. Et d'ajouter après une question faussement candide. Est-ce que votre analogie n'est pas un peu forcée? Quand celui-ci, Mélenchon, passe son temps à tancer ses concurrents à gauche, il est pour moi dans une stratégie très léninienne. N'a-t-il pas lui-même dit qu'il ne se représenterait pas en 2022 à l'élection présidentielle? En ce cas, comment compte-t-il accéder au pouvoir suprême sinon au bénéfice d'une situation de type de celle de la Russie de l'automne 1917. Fin de citation. La haine de classe le dispute à l'ignorance crasse. des règles mises en place par Lénine pour l'accès aux toilettes entre fumeurs et non-fumeurs dans le wagon qui le ramena vers la Russie en avril 1917, de fins analystes veulent voir l'annonce de son pouvoir personnel, entre guillemets, et dictatorial, entre guillemets. Un Lénine solitaire, se méfiant de tous, adepte d'un pouvoir autoritaire, d'un parti unique, en somme, le précurseur du stalinisme. Ainsi, l'historien Dominique Collat, dans le magazine L'Histoire, fait-il de lui, citation, un fanatique doté d'un type de rapport particulier au vrai et au futur. Il croit connaître sans erreur l'avenir de l'humanité. Fin de citation. Sur le même registre, Boris Kolonitsky analyse la politique des bolcheviks comme la fondation d'un citation, culte de la déesse révolution. Fin de citation. Il voit dans citation, la foi en une sorte de miracle, une résurrection politique, économique et morale du pays et de la nation. Fin de citation. L'élément majeur, entre guillemets, de la nouvelle citation, conscience politico-éthico-religieuse des masses. Fin de citation. Sous couvert d'une nouvelle lecture des événements, ce sont toutes les vieilles antiennes des adversaires d'octobre qui refont surface. Célébrer février pour mieux combattre octobre. D'autres concèdent à février la valeur d'une véritable révolution, d'une explosion démocratique, ce qui est un fait indéniable, mais en lui ôtant tout caractère de classe. Ce tableau, où les grèves, le contrôle ouvrier, la naissance des syndicats, des comités d'usines et l'intervention des masses ouvrières sont le plus souvent absents, entend démontrer que la prise du pouvoir par les bolcheviks aurait brisé un formidable élan, empêché la Russie d'intégrer pour toute une période historique le giron des puissances économiques et des « grandes démocraties », entre guillemets. Dans l'Obs du 22 décembre 2016, Daniel Cohn-Bendit, qui depuis 1968 distille ses conseils d'anciens combattants du Quartier Latin, explique. Citation. Pour l'avenir de la Russie à l'époque, l'idéal aurait été la victoire des mensheviks. Cela aurait permis une évolution positive et par la suite la naissance d'une démocratie, disons, bourgeoise. Fin de citation. Et François Reinhardt d'ajouter dans le numéro du 6 octobre dernier, citation, en prenant le pouvoir lors de la révolution d'octobre, Lénine et les bolcheviks ont réussi à étouffer les espoirs démocratiques nés de la révolution de février. Fin de citation. Comme si ces espoirs démocratiques, entre guillemets, n'avaient pas été étouffés sous la pression de la bourgeoisie par les dirigeants du pouvoir issus de février, pourtant si modérés et présentables aux yeux de nos intellectuels d'aujourd'hui. Rien donc sur la guerre que le gouvernement provisoire continua pour satisfaire les appétits de conquête de la bourgeoisie, ni sur les traités secrets conclus avec l'impérialisme français et anglais. Rien sur la peine de mort établie au front. Rien sur le refus des nouveaux dirigeants de partager les grands domaines et de répondre aux aspirations de la paysannerie pauvre. Rien sur la décomposition de l'économie, la crise du ravitaillement, l'explosion des prix, la « catastrophe imminente », entre guillemets, selon l'expression de Lénine, menaçant la Russie à l'été 1917. Rien donc sur les causes de la révolution d'octobre, l'impasse sanglante d'un gouvernement bourgeois rendant indispensable son renversement par la classe ouvrière. Sans surprise, l'arrivée au pouvoir du parti bolchévique est réduite à un coup d'État. Si c'est défendable du point de vue des règles juridiques bourgeoises, toutes les révolutions pourraient mériter ce qualificatif. Et le renversement du pouvoir de la bourgeoisie était parfaitement « légal », entre guillemets, du point de vue de la légalité des soviets. Les bolcheviks proclamaient ouvertement la nécessité de le préparer et qualifiaient d'art, entre guillemets, son élaboration. Il fallait en effet que le parti se montre à la hauteur de la confiance des masses ouvrières acquises durant des années de combats politiques et des espoirs qu'elles plaçaient en lui. L'expérience tragique de la semaine sanglante, qui avait fait plus de 20 000 morts parmi les prolétaires lors de la répression de la Commune de Paris, comme celle des journées de juillet en Russie même, matée par Kerensky, et la menace d'une dictature militaire et d'une véritable terreur blanche l'imposaient également. La majorité que les bolcheviks avaient conquise dans tous les organes de la démocratie révolutionnaire, comités d'usines, syndicats et soviets, sur la base de la revendication de tout le pouvoir aux soviets, ne laissait pas de doute sur le soutien dont ils disposaient dans le prolétariat. La révolution d'octobre 1917. Des leçons toujours d'actualité. Un siècle après l'insurrection victorieuse d'octobre 1917 et plus de 25 ans après la disparition de l'URSS en tant qu'État, le spectre du communisme hante toujours leurs adversaires. Mais son centenaire rappelle également à quel point nombre de ceux qui s'en prétendent encore les héritiers se sont éloignés des idées qu'ils avaient portées. Pour les militants communistes révolutionnaires, la compréhension de ces événements demeure indispensable et même vitale. Née des entrailles de la barbarie impérialiste, la révolution russe donna naissance au premier État ouvrier, et seul à ce jour. Le formidable capital d'expérience dont elle reste porteuse doit toujours orienter notre combat pour renverser la domination de la bourgeoisie. Quand historiens et journalistes tirent à boulet blanc sur la Révolution. La fièvre anticommuniste actuelle n'atteint certes pas les poussées les plus délirantes du passé. Il faut dire que, de la peur de la « contagion bolcheviste » entre guillemets, et de l'homme au couteau entre les dents entre guillemets, des années 1920 à l'hystérie de la guerre froide, la barre avait été placée assez haut par tout ce que le pays compte d'intellectuels réactionnaires. Se voulant parfois plus subtil, plus « scientifique », entre guillemets, l'offensive des adversaires de la première révolution communiste victorieuse de l'histoire n'en reste pas moins active. Il y a 20 ans, cette prétention d'historien et d'intellectuel à faire le procès de tous les régimes et à travers eux de toutes les révolutions se réclamant d'une façon ou d'une autre du marxisme, avait trouvé une forme de consécration dans le Livre noir du communisme, 1997. Les thèses tirées de cette compilation de contre-vérités historiques, accumulant les mensonges délibérés les plus énormes et les inventions d'anticommunistes hystériques, continuent d'agrémenter les articles consacrés ces derniers mois à la Révolution russe. Ainsi, Stéphane Courtois, le principal inspirateur de ce livre, transforme-t-il Lénine en, citation, « l'inventeur du totalitarisme, le créateur du parti-État monopolisant pouvoir politique, économique, culturel, promoteur de massacres de masse destinés à imposer le règne de « l'homme nouveau », entre guillemets, fin de citation, et pour faire bon poids, citation, l'instigateur de l'un des systèmes politiques les plus meurtriers de l'histoire. Fin de citation. Dans Les Misérables, Victor Hugo faisait dire à un de ses personnages, citation, laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes. Fin de citation. Il n'a visiblement pas été entendu. Un bêtisier pourrait être consacré à ces élucubrations, la palme revenant peut-être au rédacteur du Figaro présentant les militants de la France insoumise comme, citation, « les arrière-petits-enfants de Léon Trotsky, ayant hérité, de lui et de Lénine, le refus de la démocratie libérale ainsi que la haine du capitalisme et de son économie de marché. » Fin de citation. J.C. Buisson, directeur du Figaro magazine, renchérit le 22 septembre dernier à propos de l'appel à manifester de Mélenchon. Citation, via les soviets de soldats, d'ouvriers et de paysans, les responsables bolcheviks harcèlent le gouvernement et encadrent les mécontentements sociaux. On est alors un peu dans la France de l'été 2017. Fin de citation. Et d'ajouter après une question faussement candide. Est-ce que votre analogie n'est pas un peu forcée ? Quand celui-ci, Mélenchon, passe son temps à tancer ses concurrents à gauche, il est pour moi dans une stratégie très léninienne. N'a-t-il pas lui-même dit qu'il ne se représenterait pas en 2022 à l'élection présidentielle? En ce cas, comment compte-t-il accéder au pouvoir suprême, sinon au bénéfice d'une situation de type de celle de la Russie de l'automne 1917? Fin de citation. La haine de classe le dispute à l'ignorance crasse. Des règles mises en place par Lénine pour l'accès aux toilettes entre fumeurs et non-fumeurs dans le wagon qui le ramena vers la Russie en avril 1917, de fins analystes veulent voir l'annonce de son pouvoir personnel, entre guillemets, et dictatorial, entre guillemets. Un Lénine solitaire, se méfiant de tous, adepte d'un pouvoir autoritaire, d'un parti unique, en somme, le précurseur du stalinisme. Ainsi, l'historien Dominique Collat, dans le magazine L'Histoire, fait-il de lui, citation, « un fanatique doté d'un type de rapport particulier au vrai et au futur. Il croit connaître sans erreur l'avenir de l'humanité. » Fin de citation. Sur le même registre, Boris Kolonitsky analyse la politique des bolcheviks comme la fondation d'un citation, « culte de la déesse révolution ». Fin de citation. Il voit dans citation, « la foi en une sorte de miracle, une résurrection politique, économique et morale du pays et de la nation ». Fin de citation. L'élément majeur, entre guillemets, de la nouvelle citation, « conscience politico-éthico-religieuse des masses ». Fin de citation. Sous couvert d'une nouvelle lecture des événements, ce sont toutes les vieilles antiennes des adversaires d'octobre qui refont surface. Célébrer février pour mieux combattre octobre. D'autres concèdent à février la valeur d'une véritable révolution, d'une explosion démocratique, ce qui est un fait indéniable, mais en lui ôtant tout caractère de classe. Ce tableau, où les grèves, le contrôle ouvrier, la naissance des syndicats, des comités d'usines et l'intervention des masses ouvrières sont le plus souvent absents, entend démontrer que la prise du pouvoir par les bolcheviks aurait brisé un formidable élan, empêché la Russie d'intégrer pour toute une période historique le giron des puissances économiques et des « grandes démocraties », entre guillemets. Dans l'Obs du 22 décembre 2016, Daniel Cohn-Bendit, qui depuis 1968 disent-ils ces conseils d'anciens combattants du quartier latin, expliquent. Citation. Pour l'avenir de la Russie à l'époque, l'idéal aurait été la victoire des mensheviks. Cela aurait permis une évolution positive, et par la suite, la naissance d'une démocratie, disons, bourgeoise. Fin de citation. Et François Reinhardt d'ajouter dans le numéro du 6 octobre dernier, citation, en prenant le pouvoir lors de la révolution d'octobre, Lénine et les bolcheviks ont réussi à étouffer les espoirs démocratiques nés de la révolution de février. Fin de citation. Comme si ces espoirs démocratiques, entre guillemets, n'avaient pas été étouffés sous la pression de la bourgeoisie par les dirigeants du pouvoir issus de février, pourtant si modérés et présentables aux yeux de nos intellectuels d'aujourd'hui. Rien donc sur la guerre que le gouvernement provisoire continua pour satisfaire les appétits de conquête de la bourgeoisie, ni sur les traités secrets conclus avec l'impérialisme français et anglais. Rien sur la peine de mort établie au front. Rien sur le refus des nouveaux dirigeants de partager les grands domaines et de répondre aux aspirations de la paysannerie pauvre. Rien sur la décomposition de l'économie, la crise du ravitaillement, l'explosion des prix, la « catastrophe imminente », entre guillemets, selon l'expression de Lénine, menaçant la Russie à l'été 1917. Rien donc sur les causes de la révolution d'octobre, l'impasse sanglante d'un gouvernement bourgeois rendant indispensable son renversement par la classe ouvrière. Sans surprise, l'arrivée au pouvoir du parti bolchévique est réduite à un coup d'État. Si c'est défendable du point de vue des règles juridiques bourgeoises, toutes les révolutions pourraient mériter ce qualificatif. et le renversement du pouvoir de la bourgeoisie était parfaitement légal, entre guillemets, du point de vue de la légalité des soviets. Les bolcheviks proclamaient ouvertement la nécessité de le préparer et qualifiaient d'art, entre guillemets, son élaboration. Il fallait en effet que le parti se montre à la hauteur de la confiance des masses ouvrières acquises durant des années de combats politiques et des espoirs qu'elles plaçaient en lui. L'expérience tragique de la Semaine sanglante, qui avait fait plus de 20 000 morts parmi les prolétaires lors de la répression de la Commune de Paris, comme celle des journées de juillet en Russie même, matée par Kerensky, et la menace d'une dictature militaire et d'une véritable terreur blanche, l'imposaient également. La majorité que les bolcheviks avaient conquise dans tous les organes de la démocratie révolutionnaire, comités d'usines, syndicats et soviets, sur la base de la revendication de tout le pouvoir aux soviets, ne laissait pas de doute sur le soutien dont ils disposaient dans le prolétariat. Le NPA et la révolution russe. Du côté du NPA, la volonté de se libérer de l'étiquette communiste n'est pas nouvelle. Elle a même présidé à la transformation de la Ligue communiste révolutionnaire en nouveau parti anticapitaliste en 2009. Prendre ses distances avec la révolution d'octobre était vu comme un moyen de séduire les courants libertaires ou petits bourgeois sans aucun lien avec l'histoire du mouvement ouvrier, voire hostile à ses perspectives. Mais comme avec la plupart des groupes trotskistes existants alors, nos divergences remontent à un passé plus lointain. Elles recoupent notamment l'analyse que ses camarades firent des révolutions survenues depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de leur suivisme à l'égard des mouvements de libération nationale. Selon leur interprétation, Mao, Castro, Ben Bella, Ho Chi Minh et tant d'autres avaient permis à ces mouvements de se transformer sans la moindre intervention autonome de la classe ouvrière, en révolution socialiste. S'en remettre au tiers-mondisme, en lieu et place du communisme, c'était tourner le dos au fondement même de la politique des bolcheviks, comme à celle de Trotsky qui en fut le continuateur. Si les attaques contre la révolution d'octobre semblent moins d'actualité au NPA, on retrouve toutefois chez certains de ses responsables la même volonté de tracer une ligne non pas de continuité, mais bien de partage avec la politique menée par les bolcheviks. Dans son récent ouvrage intitulé « Que faire de 1917 ?», Olivier Besancenot reconnaît que 1917 n'avait jamais été jusque-là sa citation « clé d'entrée préférentielle en matière d'émancipation ». Fin de citation. Citation, la Commune de Paris ou l'épopée de Che Guevara avait jusqu'alors focalisé mon attention et mes faveurs instinctives. Fin de citation. Dans ses interviews, il s'affirme communiste et exprime son admiration pour la puissance émancipatrice de la révolution russe. Celle-ci a encore ce pouvoir-là. Mais les conceptions d'Olivier Besancenot sur octobre 1917 semble avoir surtout été inspiré par les œuvres d'historiens, par les critiques des libertaires, voire par les théories fumeuses des partisans de Nuit debout sur « l'horizontalité du pouvoir », entre guillemets. En tout cas, pas par la lecture de Lénine ou de Trotsky. Son plaidoyer est truffé de leçons de morale et de critiques à l'encontre des bolcheviks, de leurs actes, comme de ce qu'il présente comme la citation, justification de la terreur rouge. Fin de citation. Mettant largement de côté la situation d'isolement de la révolution, le danger que représentait la contre-révolution et tous ceux qui en favorisaient, sciemment ou non, les entreprises criminelles, Olivier Besancenot prétend tirer des enseignements valables en tout temps et en tout lieu pour les révolutionnaires. Il voit dans la politique des bolcheviks l'application de l'adage « la fin justifie les moyens », reprenant à son compte certaines assertions de Victor Serge. Pas celui qui, dans l'an 1 de la révolution russe, défendait pied à pied cette politique contre ses détracteurs. Mais celui avec lequel Trotsky rompit au milieu des années 1930, alors qu'il s'éloignait progressivement du marxisme. Sur la base de ce postulat, Olivier Besancenot critique pêle-mêle la dissolution de l'Assemblée constituante d'un point de vue « démocratique », entre guillemets, l'assaut contre Kronstadt en 1921, une prétendue « culture de guerre » entre guillemets, propre à la Révolution où il voit, citant Daniel Ben Saïd, une des citation, « racines essentielles de la bureaucratisation ». Fin de citation. L'absence, entre guillemets, chez Lénine, d'une description claire du lendemain, entre guillemets, bref, tout ce qu'il nomme les angles morts de la pensée bolchévique, entre guillemets. Se posant en défendeur du principe de la liberté politique, il appelle la révolution future à proclamer, citation, des droits élémentaires et imprescriptibles tels que la publicité des procès, le droit à la défense, la présomption d'innocence, etc. Fin de citation. L'auteur ne dit pas s'il aurait voulu qu'il s'applique à Nicolas II, au sang noir, ces milices d'extrême droite qui organisaient des programmes antisémites comme aux officiers des armées blanches. Trotsky avait en son temps ironisé à propos de ce que pourrait être un « code moral de la guerre civile » entre guillemets, rédigé par ceux justifiant leur critique de la politique des bolcheviks par les principes de la morale et du droit. Citation. D'avance, son caractère général en serait clair. Les deux côtés s'engagent à ne pas prendre d'otages. Les procès publics restent en vigueur. Pour qu'ils aient lieu correctement, liberté totale est laissée à la presse durant toute la guerre civile. Le bombardement des villes étant préjudiciable à la justice publique, à la liberté de la presse et à l'inviolabilité de l'individu, est formellement interdit. Pour d'autres raisons différentes ou semblables, l'usage de l'artillerie est proscrit. Et vu que les fusils, les grenades à main et même les baïonnettes exercent incontestablement une influence néfaste sur les êtres humains, ainsi que sur la démocratie en général, l'utilisation des armes à feu ou des armes blanches, est formellement interdite dans la guerre civile. Fin de citation. C'était en d'autres termes livrer à coup sûr la révolution à ses bourreaux. Quand Imprécor revisite l'histoire de la révolution russe, à la lumière de ses propres errements. Plusieurs articles d'Imprécor, la revue du bureau exécutif de la 4e internationale, généralement appelée Secrétariat unifié, puisent à la même eau insipide. Catherine Samary y revendique ce qu'elle appelle le « devoir communiste d'inventaire », entre guillemets. Au-delà du verbiage de l'auteur, qui entend enrichir et actualiser, citation, la problématique d'un communisme décolonial de la révolution permanente à l'œuvre dans la révolution d'octobre vers un pluriversalisme décolonial, entre guillemets, sic, sont pointées les faiblesses, entre guillemets, supposées des positions bolcheviques, citation, l'absence de clarté sur les questions nationales, en particulier celle des nations opprimées de l'Empire russe. Fin de citation. La défiance envers la paysannerie, entre guillemets, une vision économiste du primat, entre guillemets, de la croissance des forces productives, favorisant le renvoi, entre guillemets, de la transformation des rapports sociaux à une étape, entre guillemets, ultérieure, et, comme chez tous ses devanciers, ce qu'elle nomme, citation, la tragique erreur de la répression de Kronstadt, fin de citation, à se demander ce qu'il reste de l'œuvre d'octobre. À ces critiques succède, à contrario, une analyse élogieuse des régimes s'étant réclamés d'une forme renouvelée du stalinisme. Catherine Samary voit notamment dans l'autogestion yougoslave une expérience, citation, allant dans le sens du dépassement de l'aliénation de l'autogestion des travailleurs par l'étatisme et par le marché, fin de citation, l'émergence d'une forme nouvelle et un débat renouvelant par les actes le débat anarcho-communiste, entre guillemets. Citant Mehdi Ben Barka, Catherine Samary fait de la même manière de Cuba la jonction, entre guillemets, entre, citation, le courant surgit avec la révolution d'octobre et celui de la révolution nationale libératrice, fin de citation. Ces révolutions, en somme, auraient réussi là où la révolution russe avait échoué. Pierre Rousset, membre du NPA et du bureau exécutif de la 4e Internationale, s'en prend dans le même esprit aux « échecs du bolchevisme », entre guillemets, en particulier celui de, citation, « n'avoir pas su s'implanter dans la paysannerie avant 1917, ni penser assez tôt les conditions d'une convergence durable ouvrière et paysanne », fin de citation. On croirait lire les critiques des staliniens au début des années 1920 contre les partisans de Trotsky et leur prétendue « sous-estimation » entre guillemets, du rôle de la paysannerie. Mais ces remarques sont là encore destinées à justifier l'appréciation par le secrétariat unifié des mouvements de libération nationale et des nouvelles formes d'organisation politique présentées comme « nécessairement hybrides » entre guillemets, à laquelle conduirait l'impossibilité de construire des partis révolutionnaires de type bolchevique, et de prôner une nouvelle ligne de marche, entre guillemets, sans aucune base de classe. Citation, l'auto-émancipation populaire, opposée au commandantisme vertical de l'avant-garde autoproclamée. Fin de citation. Une variante, cette fois, des attaques contre le socialisme étatique, entre guillemets, lancé jadis par les anarchistes. Si ses camarades sont prompts à gloser sur les supposées faiblesses ou erreurs des bolcheviks, ils ont en commun de ne pas chercher à comprendre les raisons de leur réussite, leur rôle du parti bolchevique, ses liens avec les masses ouvrières et tout ce qui pourrait aider les révolutionnaires dans leur combat d'aujourd'hui. Conférer en outre indistinctement une valeur révolutionnaire à diverses classes et mouvements, entre guillemets, c'est sous-estimer, voire nier, la tragédie qu'a constituée la contre-révolution stalinienne et la nature spécifique d'octobre. Une révolution ouvrière au cours de laquelle le prolétariat, organisé en soviet, a bâti son propre État. C'est renoncer à l'idée que la classe ouvrière est la seule qui, comme Marx l'affirma il y a plus d'un siècle et demi, puisse mener la révolution à la victoire complète et définitive sur la bourgeoisie. Citation, l'avenir appartient partout au bolchevisme. Fin de citation, Rosa Luxembourg. Connaître l'histoire du mouvement ouvrier, ses moments de flux et de reflux, est indispensable à qui veut renverser l'ordre social et œuvrer à la construction d'une société communiste. Autre chose est de rechercher dans la politique des bolcheviks les racines du stalinisme comme le font, même si c'est parfois à leur corps défendant, une partie de ceux se prévalant de l'héritage d'octobre. Car c'est reprendre aux réactionnaires l'idée que le stalinisme était un développement de la révolution et de la politique des bolcheviks elle-même, et non pas le produit de l'évolution négative du rapport des forces entre la bourgeoisie et le prolétariat conscient, en Russie comme à l'échelle internationale. C'est penser qu'il suffirait de concevoir des garde-fous contre la dégénérescence d'une future révolution et de les graver dans le marbre d'une constitution, fût-elle communiste, pour que les rapports entre les classes s'en trouvent durablement modifiés et que la lutte contre la bourgeoisie et ses serviteurs puisse être menée, pour reprendre la formule de Lénine, sans rien casser, entre guillemets, et en mettant des gants blancs, entre guillemets. Et c'est enfin ne rien comprendre à ce que fut le combat de Trotsky et de l'opposition communiste à Staline. La révolution d'octobre a démontré la nécessité pour les exploités de disposer de leur propre instrument d'émancipation, d'un parti ouvrier par sa composition, le prolétariat constitué près des deux tiers des membres du parti bolchévique en 1917, mais aussi par sa capacité à défendre leurs intérêts généraux. Car seul un tel levier, écrivait Trotsky dans les leçons d'octobre, peut jouer dans la révolution prolétarienne, citation, le rôle que jouait dans la révolution bourgeoise la puissance de la bourgeoisie, son instruction, ses municipalités et les universités. Son rôle est d'autant plus grand que la conscience de classe de son ennemi s'est formidablement accrue. Fin de citation. Un parti suffisamment stable et influent, mais aussi capable de s'affranchir de la routine, d'adapter sa politique, ses mots d'ordre à l'évolution des rapports entre les classes, et non pas la caricature qu'en fit plus tard le stalinisme, transformant des organes vivants en instruments de conservation de son propre pouvoir. Nous ne pouvons une nouvelle fois que reprendre la conclusion qu'en tirait Trotsky dans le programme de transition, 1938. Citation : les bavardages de toutes sortes, selon lesquels les conditions historiques ne seraient pas encore mûres, entre guillemets, pour le socialisme, ne sont que le produit de l'ignorance ou d'une tromperie consciente. Les prémices objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres, elles ont même commencé à pourrir. Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d'être emportée dans une catastrophe. Tout dépend du prolétariat, c'est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. La crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. Fin de citation. La nécessité d'une telle direction, vérifiée en octobre 1917 et durant les années qui suivirent, mais aussi par l'échec des révolutions en Allemagne entre 1919 et 1923, en Chine en 1927, en Espagne en 1936, comme par les événements survenus depuis, a pour fondement la confiance dans la capacité de la classe ouvrière à prendre son sort en main. Répondant en 1935 dans le régime communiste aux USA, à ceux considérant que le communisme ne pourrait jamais s'installer aux États-Unis, comme à ceux estimant que la dictature stalinienne démontrait l'impossibilité pour la classe ouvrière de contrôler durablement son propre État, Trotsky expliquait que le niveau colossal des forces productives des États-Unis, leur maîtrise technique et scientifique, comme le degré de qualification de sa main-d'œuvre, constituer les bases matérielles solides pour des soviets américains vigoureux et pleins de sang, entre guillemets. L'humanité a acquis depuis des moyens matériels et des connaissances bien plus considérables encore. Quant à la classe ouvrière, elle constitue désormais une classe présente sur tous les continents qui continue à inspirer une sainte peur à la bourgeoisie. Mais les reculs, et plus généralement l'époque de réaction politique que nous traversons, la désagrège et l'affaiblisse. La conscience de classe s'efface au profit des mouvements identitaires, religieux ou communautaires, des nationalismes, où les intérêts des travailleurs disparaissent. Dans le combat contre ce courant réactionnaire, les intellectuels peuvent prendre toute leur place, à condition de ne pas passer leur temps à réinterpréter le passé en se plaçant dans le sens des vents dominants. Citation : si le rapport défavorable des forces ne permet pas de conserver les positions politiques précédemment occupées, écrivait Trotsky en 1937, dans bolchevisme ou stalinisme, il faut se maintenir au moins sur les positions idéologiques, car c'est en elles qu'est concentrée l'expérience chèrement payée du passé. Fin de citation. Notre courant s'est toujours refusé de rechercher de nouveaux programmes, un nouveau langage ou un nouveau logiciel, entre guillemets, comme on l'entend aujourd'hui. Ces tentatives traduisent toujours les pressions de la société bourgeoise et le manque de confiance de leurs concepteurs dans la classe ouvrière. Le programme de l'Internationale communiste, tel qu'il fut défini dans ses premiers congrès, comme celui de la quatrième internationale élaborée par Trotsky, qui concentrait toutes les expériences des révolutions passées, et en premier lieu d'octobre 1917, continueront à guider le combat des révolutionnaires communistes. Le 21 octobre 2017.